LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Tu t'appelles Isée ? C'est un beau prénom. Je vais t'appeler Mon Amour parce que je t'aime. J'espère que tu sais pâtisser. Mon amour, j'adore les gâteaux. Voici ma maison, dit Torlémo. On va jouer tout de suite. Je suis si content. À quoi tu veux jouer ? Au golf ? Oui, d'accord. On va jouer au foot. Toute la journée, Torlémo joue au foot. Il shoote et re-shoote et il zébondit, rebondit, rebombondit, rebombondidi et rebombondididi. À la fin, elle est tournebouliglinguée. Torlémo est content. Il a bien joué. Il dit « Fais-moi une tarte aux fraises ». Et Isée fait une tarte aux fraises.
Les enfants peuvent-ils parler ?
C'est ainsi tous les jours qui ont un matin, un après-midi et un soir.
Une série documentaire de Clémence Alzard et Anne Fleury.
Torlémo et Isée jouent à la balloune. À la fin de chaque fois, Torlémo est content et Isée est plein tourne-boulis-glingué. Parfois, Torlémo joue si fort avec Isée qu'elle est deux Isées en même temps.
Quatrième épisode, infantisme.
Allez. Voilà, là c'est où je prends ma vie.
Claude Ponty, auteur.
Mon amour, c'est ma fille m'a dit « Papa, tu fais des livres où les enfants sont passifs, où ils subissent ce qui leur est arrivé, puis ils sont obligés de faire des choses après. » Moi, quand j'étais petite, je rêvais pas que le métro aille ailleurs, je rêvais de piloter le métro pour aller ailleurs. En foi de quoi, j'ai fait une suite où l'héroïne prend une décision et part faire des choses.
Dans cette recherche, il y a les mots d'une écrivaine aussi qui m'accompagne beaucoup, qui s'appelle Christiane Rochefort. Ouais. Elle dit que de tous les opprimés, elle écrit, de tous les opprimés doués de parole, les enfants sont les plus muets.
Mais oui, bien sûr qu'ils sont muets, parce que ils savent pas dire, ils savent pas qu'il y a à dire. Ils ne savent pas qu'ils peuvent dire. Ils n'ont rien de tout ça. Il faut du temps pour comprendre qu'on ressent quelque chose, que c'est intéressant de le dire, qu'on peut tirer un bien du fait de l'avoir dit, que ce n'est pas dangereux. Et puis, oui, c'est la raison. Enfin, la raison. Je suis d'accord.
Et elle dit aussi qu'ils sont opprimés.
Oui. Oui, bon, enfin, en plus, moi, je veux dire, qu'est-ce que je vous dise, né en 48, je veux dire que, on prenait des raclés, on prenait des coups, je vous fais pas la liste des trucs qu'utilisait mon père pour nous frapper, mais, je veux dire, évidemment, on était opprimés, on avait des tas d'obligations, des travaux à faire, nos études étaient orientées par nos parents, oui.
Les femmes et les non-blancs, ayant crié assez fort, on leur a finalement consenti leur statut d'opprimé. Mais on ne pense pas encore aux enfants, car ils se taisent. De tous les opprimés doués de parole, les enfants sont les plus muets. Les cris et fureurs qui émanent du groupe ne sont pas perçus comme protestations inarticulées, mais comme un fait de nature. Les enfants, ça crie. Nul être, pourtant, ne crie sans raison. Entre les adultes qui parlent des enfants comme ils les veulent et les enfants qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, la passe est étroite. Et la mystification se porte bien. Il faudrait pourtant sortir de là. Mais être adulte, après tout, n'est qu'un choix, par lequel on s'oublie et se trahit. Nous sommes tous d'anciens enfants. Tout le monde n'est pas forcé de s'oublier. Comme ancien enfant qui a gardé la mémoire, on se souvient que la dépendance nous mettait un baillon et que l'éducation nous bandait les yeux, nous imposant non seulement des conduites, mais des façons de sentir, conformes au projet adulte et qui invalidaient notre expérience. On peut le dire et confirmer l'expérience. On ne parle pas du dehors, sur les enfants. On parle du dedans et de soi. Ce n'est pas un travail objectif, mais les enfants ne sont pas des objets. C'est dans cette marge étroite que se situe cette tentative. Il faut commencer quelque part.
Les enfants d'abord. Christiane Rochefort,
1976.
Donc l'infantisme, c'est une proposition de traduction française d'un mot qui existe déjà en anglais, qui s'appelle childism.
Lélia Benoît, pédopsychiatre et sociologue, auteur de « Infantisme ».
Qui décrit les discriminations et les préjugés systématiques envers les enfants et adolescents, donc les mineurs, du simple fait de leur âge. Du simple fait de leur âge, on les considère comme des êtres un peu inférieurs. Exactement comme on considérait les femmes il y a un siècle. Il n'y avait pas encore de droit de vote. Et puis, voilà, c'était une personne assujettie à un autre membre de la famille. Et c'était comme ça.
Je m'appelle Adèle, j'ai 50 ans, je suis parent d'une ado, j'habite à Vermontreuil. Voilà, je suis une personne trans, non binaire. Et voilà, parfois j'écris, parfois je traduis, parfois je milite, parfois je danse aussi. Voilà.
Et est-ce que toi, sans que ce soit forcément nommé domination adulte, mais les questionnements autour de rapports de pouvoir adulte-enfant? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier qui les ont déclenchés, ces questionnements?
C'est venu direct, je pense. C'est vraiment quelque chose, même avant même l'arrivée de Charlie, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas en moi, autour de la question d'être un bon parent, entre guillemets. Enfin, plutôt la conviction que ce serait quelque chose que j'arriverais pas à faire. Et du coup, d'essayer de faire au mieux malgré tout, parce que j'ai quand même, malgré cette conviction, j'ai quand même décidé de, à un moment, d'avoir une enfant. Et du coup, ça s'est posé tout de suite, et ça s'est posé via aussi des héritages, forcément, c'est-à-dire des choses du vécu, des choses que je n'ai pas vécues moi directement, mais que j'avais quand même sur les épaules, parce que la grand-mère, parce que les arrière-grands, enfin voilà, ça sent d'héritage aussi autour des dominations des unes et des autres. Et de ce que ça engendre comme trauma qui se passe. Et du coup, ça a été très fort. En tout cas, j'ai vraiment ce souvenir. Peut-être s'il y a un souvenir, c'est ça, c'est de me retrouver avec cette toute petite personne dans les mains et de sentir le pouvoir incroyable, ne serait-ce que physique, que j'avais sur ce petit être. Et je pense que c'est resté en moi de me dire, qu'est-ce que je fais avec cette inégalité absolue de pouvoir.
L'abomination. Je ne sais pas trop, j'ai juste, sans faire exprès, inventé le mot. C'est la domination et l'abomination à la fois. C'est quand un adulte, il va décider plus que l'enfant. Il va avoir plus de pouvoir. Il n'y a quasiment jamais d'enfants qui écrivent des livres, par exemple. L'adulte, c'est l'humain qui domine l'enfant. C'est l'adulte abominable. L'abominable, être abominable... C'est être cruel, vouloir que du pouvoir sur l'autre. C'est moche à l'intérieur, contrairement à ce que abominable pourrait laisser penser. C'est plutôt petit et plutôt minable. L'abomination adulte, Adèle et Charlie Tincelin.
Tu te souviens, Charlie, de cet article que vous avez écrit un peu à deux, co-écrit avec l'un de tes parents, qui s'appelle « L'abomination adulte ». Tu t'en souviens?
Oui.
Ce texte, il date de 2019. T'avais 10 ans, en fait.
Ouais, 10 ans.
La domination adulte, ça te parlait, cette expression?
Je pense qu'à l'occasion de ce texte, ma mère avait dû m'en parler, etc. On avait dû en discuter. Après, moi, je me rappelle que quand j'étais petite, ça me marquait de ouf quand les adultes, ils parlaient entre eux, et qu'après, quand on venait me parler, on parlait genre avec des voix débiles, ou... Ça me marquait de ouf quand j'étais petite. J'étais là, mais parlez-moi normalement, je comprends, hein. Parce que un tout petit bébé, je peux comprendre. On a un peu... C'est trop mignon, on est là... Mais en mode, une fois que l'enfant est grandi, je trouve que justement, c'est cool de pouvoir lui parler un peu normalement. Alors oui, évidemment, lui parler avec des mots appropriés, enfin... Voilà, s'adapter, évidemment. Mais un truc où... Quand j'étais petite, j'ai gravé une période où j'aimais vraiment trop me poser, dessiner un truc ou faire un truc et écouter les conversations des adultes. J'aimais trop et je comprenais. Il y avait des trucs que je comprenais pas, mais globalement, je comprenais. Et du coup, vraiment, ça faisait pas sens dans ma tête de pourquoi les adultes, quand ils venaient me parler à moi, ils me parlaient différemment.
Alors, une auteure qui a beaucoup fait avancer la question de l'infantisme, c'est Elizabeth Young Bruehl aux États-Unis, donc qui a publié son livre Childism, Prejudice Against Children. Elle montre qu'il n'y a pas d'un côté une minorité d'enfants maltraités, qui seraient battus, soumis à des violences terribles, et de l'autre côté, les enfants heureux, voire gâtés. En fait, on n'a pas deux groupes. On a un continuum avec l'immense majorité des enfants qui essuient quotidiennement un lot d'humiliation du simple fait d'être des enfants.
Topito, top 10 des endroits dont les enfants devraient être bannis. On est mieux sans les gosses. Le Parisien, pas d'enfants, merci. Une affiche d'un restaurant RMC, Orange, avion, train, restaurant. Faut-il créer des espaces sans enfants pour éviter les nuisances? TF1 Info, interdit aux enfants? La tendance adult only séduit de plus en plus. Le Monde, se reposer en paix. 5 hôtels interdits aux enfants. Ouest France, trop de cris, pas assez de silence. Les passagers disent stop. En avion, faut-il des zones à part pour les enfants?
Qu'est-ce que ça t'inspire, ces trucs? Les espaces interdits aux enfants. Tu savais que ça existait?
Non.
Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est nul.
Autre chose que Elisabeth Jungbreuil montre, et ça elle le montre avec sa grille de lecture de psychanalyste, c'est comment les formes d'infantisme qu'on a viennent dévoiler nos angoisses inconscientes. Et donc elle s'intéresse à trois types d'angoisses, et donc trois types d'infantisme. Donc elle dit d'abord l'infantisme narcissique, qui est sous-tendu par des angoisses de supplantation, hein. C'est la crainte qu'un jour cet enfant devienne plus puissant, plus beau, plus fort que nous, et nous remplace. Il y a cet enjeu dans l'infantisme narcissique d'essayer de le façonner à notre image, de le garder assujetti sous notre contrôle. Donc c'est un peu un effet Pygmalion. Le deuxième type décrit par Elisabeth Jungbreuil, c'est l'infantisme qu'elle nomme hystérique, avec une inversion des rôles, c'est-à-dire on attend que l'enfant prenne en charge l'adulte. Ça, l'exemple que je donne dans le livre, c'est typiquement le changement climatique, où on compte sur la nouvelle génération pour s'en occuper, tout en disant bah, nous de toute manière on sera mort. Donc c'est pas trop notre problème. Donc c'est cette idée comme ça de se défausser sur les plus jeunes. Et le troisième type d'infantisme qu'elle décrit, c'est l'infantisme obsessionnel, qui est sous-tendu par des angoisses de parasitisme. C'est se dire vraiment les enfants et adolescents, ce sont des espèces de sangsues qui finalement utilisent nos ressources. Et ça, c'est tout à fait omniprésent, y compris dans l'humour des parents vis-à-vis des enfants, de dire « oh là là, les ados, ils nous vident le contenu du frigo sans jamais le remplir, ils ne font rien, etc. » Et finalement, c'est une manière de considérer que les enfants et adolescents sont un poids, en occultant tout à fait le fait que on a choisi de les avoir, et que par ailleurs, on les met dans des situations de double contrainte très souvent, où on leur refuse de l'autonomie, de l'indépendance, on les infantilise aussi beaucoup, tout en se plaignant qu'ils ne font pas assez, et que du coup, c'est un fardeau sur les épaules de leurs parents.
Volbe Preciado, 2013.
Qui défend l'enfant queer? Chronique publiée dans Libération au lendemain d'une manif pour tous. Les catholiques, juifs et musulmans intégristes, les copéistes décomplexés, les psychanalystes dippiens, les gauchos hétéronormatifs et le troupeau grandissant des branchés réactionnaires sont tombés d'accord ce dimanche pour faire du droit de l'enfant à avoir un père et une mère l'argument central justifiant la limitation des droits des homosexuels. On a l'habitude de les voir brandir une hache. Ce qui est problématique, c'est qu'ils forcent les enfants à porter cette hache patriarcale. Les défenseurs de l'enfance et de la famille font appel à la figure politique d'un enfant qu'ils construisent, un enfant présupposé hétérosexuel et au genre normé, un enfant qu'on prive de toute force de résistance. Frigide Barjot, leur égérie, profite de ce qu'il est impossible pour un enfant de se rebeller politiquement contre le discours des adultes. L'enfant est toujours un corps à qui on ne reconnaît pas le droit de gouverner. J'ai été un jour l'enfant que Frigide Barjot se targue de protéger. Et je me soulève aujourd'hui au nom des enfants que ces discours fallacieux entendent préserver. Qui défend les droits de l'enfant différent? Les droits du petit garçon qui aime porter du rose, de la petite fille qui rêve de se marier avec sa meilleure amie, les droits de l'enfant queer, pédé, gouine, transsexuel ou transgenre? Qui défend les droits de l'enfant à changer de genre s'il le désire? Qui défend les droits de l'enfant à grandir dans un monde sans violence, ni sexuelle, ni de genre?
Pour organiser une lutte collective, il faut déjà avoir conscience du collectif et du système. Et ça, c'est des choses qu'on commence à émerger en général autour de l'âge de 12 ans ou plutôt à l'âge du lycée, hein, de voir qu'on est dans une société avec des groupes sociaux différents, qui ont des intérêts différents, que ces intérêts peuvent être contradictoires, etc. Tout ça, c'est autour du lycée qu'ils commencent à avoir conscience de ça. Donc, comment organiser une lutte quand on n'a pas de perception du système? Ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est que les enfants dépendent terriblement des adultes. Un enfant n'est pas capable de survivre avant l'âge de 6 ou 7 ans, seul. Il n'y a pas plus grande dépendance que l'enfance, si ce n'est peut-être le grand âge ou la dépendance physique. Et donc, évidemment, c'est des populations qui sont très à risque d'être maltraitées et qui sont très à risque de ne rien pouvoir dire quand elles le sont.
Les enfants parlent, mais qui les écoute? Les enfants parlent, mais qui les écoute? Les enfants parlent, mais qui les écoute?
160 000 enfants par an, victimes de violences incestueuses. C'est ce que la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, CIVIS, a martelé des mois durant. En novembre 2023, elle remettait un rapport au terme de 3 années à sillonner la France pour accueillir la parole des victimes. 160 000 enfants par an, cela signifie qu'actuellement en France, une personne sur 10 a été victime d'inceste. En 2019, le ministère des Solidarités et de la Santé publiait un chiffre marquant. En France, un enfant meurt tous les 5 jours après avoir été victime de violences intrafamiliales. L'enquête de référence sur les violences sexuelles menée en 2015 par l'INED et intitulée Virage indique que pour 85% des femmes et des hommes victimes au sein de leur famille, les viols et agressions sexuelles ont commencé avant leurs 14 ans. Et pour la moitié d'entre elles et eux, les violences ont commencé avant l'âge de 9 ou 10 ans. Nous sommes à l'ANC, l'association Nègre-Nécurie, une asso de quartier située entre les Minimes et les quartiers nord toulousains. Y interviennent aujourd'hui Sonia, Laurine et Harmonie pour l'association d'éducation populaire Cap d'Agir. Leur programme propose de rendre les enfants capables, qu'ils aient les mots pour dire, identifier les violences, demander de l'aide, se défendre.
Comment se défendre ?
Première étape, tout le personnel du lieu d'intervention est formé aux violences faites aux enfants. Dans un second temps, un atelier est destiné aux familles. La veille, j'ai assisté à l'un d'entre eux. Seules des mères, une petite dizaine, très à l'écoute bien qu'un peu intimidées, étaient présentes. Un point est particulièrement souligné, déjouer le cliché de la menace extérieure, de l'adulte inconnu. Dans 85 à 95% des cas, les enfants connaissent l'auteur des agressions et plus encore, ils ont généralement une relation affective ou de confiance avec cette personne.
Est-ce que ça vous rappelle un mot prévention? Ça rappelle quel mot?
Prévenir.
Asia?
Prévenir, par exemple, il y a quelque chose qui arrive de grave et par exemple, tu dis attention. Ouais. C'est ça, prévenir.
Alors, on va parler des droits des enfants, ok? Dans la loi, il est dit que les enfants ont des droits. Est-ce que vous connaissez des droits qu'ont les enfants, Maya?
D'être libre.
Le droit d'être libre, oui.
Le droit d'être à la maison.
Le droit d'être à la maison, oui. D'avoir un toit, d'avoir une maison.
Le droit d'avoir une famille et d'aller à l'école.
Le droit d'avoir une famille, alors quand c'est possible, oui. D'aller à l'école, oui. Le droit à la scolarité, moi-même.
Enfin, l'ultime étape, l'atelier pour les enfants. Il s'articule notamment autour de 3 scénettes de théâtre forum, c'est-à-dire qu'une première proposition met en scène un enfant dans une situation d'oppression, harcèlement scolaire, un inconnu qui aborde un enfant, une scène d'agression dans la famille, puis les enfants réfléchissent à ce qui aurait pu être fait ou dit pour et par l'enfant en danger. Et l'on rejoue la scène. Ainsi, une petite harcelée à l'école parvient lors de la seconde scène à s'opposer à son bourreau, aidée par l'une de ses camarades. Car l'une des choses que les bénévoles veulent développer, c'est aussi l'entraide entre enfants, afin de réduire leur dépendance aux adultes et contrer leur isolement social.
On est prêts? On commence la scène? 3, 2, 1. Bonjour Jamil.
Salut tonton.
Comment va mon neveu préféré?
Ça va.
Très bien. Qu'est-ce que tu fais?
Je regarde la télé.
Ah, écoute, on va éteindre la télé pour l'instant. Et si tu te rapprochais de ton oncle? proche, jeune homme, plus proche.
Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé dans cette scène?
Oui, en fait, il y avait ses parents, ils sont partis et du coup, ils l'ont posé chez son tonton et sa tata. Et après, son tonton, il venait, il s'est assis à côté de lui. Il lui a dit « Rapproche-toi de moi encore plus ». Et après, ils ont commencé à eux deux se coller. Et après, il a dit « Je veux te faire un cadeau ». Et ce sera un vélo, mais il faut que tu sois gentil avec moi.
Ouais.
Et il lui a dit, fais-moi un bisou. Et après, il a fait un bisou sur la joue. Et après, le tonton, il a dit encore plus. Et du coup, ils se sont embrassés.
Mmh. Il lui a dit quoi à la fin? Isabelle, tu te rappelles ce qu'il lui a dit à la fin?
C'est un secret.
C'est un secret. Ouais. C'était un bon secret?
Non, non, c'était pas un bon secret parce qu'il lui a dit de garder, mais il faut en parler parce qu'il voulait pas, lui.
Exactement. Parce qu'il lui a demandé de ne rien dire alors qu'il était dans une situation dangereuse. Et un bon secret, on n'est pas en danger. Vous avez juste là un exemple, je vais prendre un exemple d'un bon secret. Oui, Miguel.
Par exemple, il m'a dit il est amoureux de quelqu'un,
ouais.
Et puis moi, je le garde.
Oui, ça c'est un bon secret, ça fait du mal à personne. Les mauvais secrets, c'est les secrets qui nous mettent en danger. Et donc on a le droit de parler. À qui Jalil pourrait en parler?
À moi. À moi.
Oui, il peut aller voir une amie et il peut lui raconter, tout à fait.
À sa mère? À la police?
Éventuellement, mais on peut d'abord en trouver une personne de confiance.
Emmanuel Macron. Emmanuel Macron.
Est-ce que les adultes nous croient tout le temps?
Non.
La dernière fois,
il peut dire c'est leur imagination.
Ouais, et comment on fait si l'adulte à qui on va parler ne croit pas? S'il nous dit c'est dans votre tête, t'as imaginé, ton tonton il t'aime beaucoup, arrête de raconter des bêtises. Ouais, Mariana?
Bah, il pourrait le dire à une autre personne, et cette personne, on pourrait la croire.
Ouais.
Il peut dire aussi stop, tu ne touches pas.
Tout à fait. Il peut dire non, tu arrêtes. Comme tout à l'heure, c'est important. Ça peut être très difficile de s'opposer à un adulte, surtout un adulte qu'on connaît, qu'on aime bien. Ça peut faire peur aussi. Mais on a le droit de dire non à un adulte qui nous met en danger, qui fait des choses qui nous mettent mal à l'aise, qui a des gestes déplacés. On a le droit de faire ça. Mais si on n'y arrive pas, si on ne dit pas non, si on fait quand même un bisou, est-ce que c'est notre faute?
Bien sûr.
Non, bien sûr que non, c'est pas notre faute. C'est jamais notre faute. C'est jamais la faute des enfants.
Triste tigre, neige sino 2023.
Je portais des vêtements de seconde main. Des salopettes en velours, des chemises fleuries, des robes souvent trop grandes et des chaussures de montagne en cuir pas très assorties qui donnaient à mon corps frêle un air plutôt comique. Comment une petite comme ça peut-elle attirer le regard d'un homme? Qu'est-ce qu'il voit quand il la voit? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'érotique chez un être aux genoux croûtés qui n'a pas encore perdu toutes ses dents, qui peut passer une heure à essayer d'attraper des lézards entre les pierres chaudes de l'après-midi? L'innocence, c'est ça qu'il y a à voir, la plus pure innocence. Et ce qui attire, c'est peut-être simplement la possibilité de la détruire.
J'ai eu à subir l'affection ravageuse de mon grand-père maternel, donc inceste, viol, etc., pendant pas mal de temps, et à deux reprises différentes. Quand je l'ai dit à mes parents, j'avais 25 ans, et ils m'ont mis à la porte, je les ai pas revus avant 7 ou 8 ans. À un moment, ma mère a fait une espèce de mea culpa, et puis quelques années après, tout d'un coup, elle s'est renversée, et tout est redevenu c'est moi l'horreur, c'est moi le monstre, l'obsédé sexuel, son père est un type bien, patati, patata. Donc là, ça fait, je sais pas, 15 ou 20 ans qu'on se parle pas. Hein. Je lui ai envoyé un petit mot, parce qu'elle a 100 ans, là. Ça fait quand même de moi, je trouve, un bon enfant.
À partir du moment où une personne dévoile avoir vécu des abus sexuels dans sa famille, donc qu'un membre de la famille soit un incesteur, donc un violeur d'enfants, c'est moche, personne n'a envie d'entendre ça, c'est cette personne qui est éjectée de la famille, la personne qui a dévoilé. Ça pose des questions sur mais qu'est-ce que c'est que l'attachement? Qu'est-ce que c'est la dépendance? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la famille? Et les gens sont, on les invite plus à Noël. Enfin, on les invite s'ils sont d'accord de faire le dîner de Noël avec l'incesteur. Donc, ils sont pas d'accord. Donc, ils s'en vont. Enfin. Mais oui, bien sûr, ça pose cette question. Qu'est-ce qui se reconfigure et qu'est-ce que c'est que la famille, alors?
La famille.
Ah oui. À quoi ça sert, la famille?
Classe de CE1, Paris 20e.
À protéger les... À s'aider à se protéger, à être née. S'il n'y avait pas mes parents, moi je ne serais pas là.
S'il n'y avait pas d'enfants, cette ville aura personne qui serait ici.
Mais non,
s'il n'y avait pas la maman de... S'il n'y avait pas le papy de mon papy, bah, il n'y aurait pas...
Toi, il n'y aurait pas ta mère, ta mamie et tout ça. Ta famille, toute ta famille. Bah moi aussi.
Donc bah, ça oui. Sert à naître, ça sert à protéger. Est-ce que vous avez d'autres idées?
À s'aider quand on n'arrive pas à faire des choses. À bien grandir parce qu'ils veulent qu'on soit des adultes.
Non, pas forcément.
Bah oui, des fois, ils s'en fichent de moi. Bah oui.
Ils s'en fichent de toi.
On a le droit.
S'en fiche de nous.
Bah, ils s'en fichent un peu, quand même.
Non.
Bah si, ma mère, elle allait... On était dehors. Elle allait failli me jeter. Moi, j'étais comme ça.
J'avais super peur qu'elle me jette et que j'étais toute seule abandonnée dans la rue. Mais heureusement, elle a pas fait. Sinon, je ne serais pas là.
Est-ce que vous avez compris ce que j'appelais tout à l'heure un paradoxe, en tout cas un paradoxe apparent, que la famille soit supposément cette entité qui nous protège et que ce soit l'endroit pourtant...
Où on souffre.
Oui.
Oui, oui, ça je l'ai... Alors, je l'ai vécu très tôt. Je l'ai compris plus tard. Et... En termes exprimés, il me protège, mais il m'a fait du mal, mais je suis coincé parce que je l'aime. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'admettre. Parce qu'il fallait que j'admette que j'aimais mes parents. Et je les aime pas. J'ai réduit ma famille à peu de choses. Et elle a commencé à se construire avec ma fille et sa mère. Ma compagnonne. Et je me rends compte que la maison où on est, par exemple, à moitié inconsciemment, je l'ai entièrement conçue comme maison de famille, comme s'il y avait eu déjà 12 générations avant moi. Je remplis le grenier, je mets des vieux jouets, je mets des... Voilà. Donc j'ai forcément une nostalgie de la famille. Je suis content qu'il y en ait une qui se constitue. Mais j'ai toujours peur à Noël. Moins maintenant. Mais la famille me paraît une calamité monstrueuse, inévitable. Et quand quelqu'un me dit « tout va bien dans ma famille », je le crois pas.
Je dirais volontiers, en effet, que le noyau d'exercice de la violence de l'enfant, c'est la famille qui est un espace hors droit.
Daniel Delanoë, psychiatre et anthropologue, auteur du livre « Les châtiments corporels de l'enfant ».
Comme les violences conjugales. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une tolérance envers les violences, tolérance sociale sur les violences des maris envers les épouses, à tel point qu'il y a un droit de correction du mari sur l'épouse qui a existé jusqu'en 1923, c'est quand même important à rappeler, et qu'il y a un droit de correction du parent sur l'enfant, qui est un droit coutumier, qui est non opposable au droit écrit, qui est le code pénal. Les violences légères sont condamnées par le code pénal. Hein. 2-3 ans d'années de prison, des lourdes amendes. Sauf que jusqu'au vote de la loi de 2019, il y a une jurisprudence, avec plus d'une dizaine d'arrêtés de jurisprudence, qui disait que lorsque la claque, la fessée, des coups de ceinture, des choses comme ça, lorsqu'elle n'excédait pas un certain niveau de violence raisonnable, était du ressort du droit de correction des parents. En d'autres termes, le droit était suspendu à l'intérieur de la famille. C'est pour ça qu'on peut dire très précisément, du point de vue juridique, que la famille était un espace hors droit.
« Dorothée Ducy est l'auteur d'une vaste enquête sur l'inceste dont le premier tome, Le berceau des dominations, est paru en 2013. Il s'ouvre sur ces mots. Tous les jours, près de chez vous, à Lyon, à Paris, à Barcelone, à Toronto, à Mexico ou à Dallas, un bon père de famille couche avec sa petite fille de 9 ans. Ou parfois, elle lui fait juste une petite fellation. Ou c'est un oncle avec son neveu. Ou une grande sœur avec sa petite sœur. Le terme consacré pour désigner ces pratiques sexuelles imposées à un enfant de la famille est inceste. L'un des enseignements majeurs de ce travail, pour moi en tout cas, est lié au profil des incesteurs. En effet, peu d'entre eux sont des pédophiles, dans le sens où ils ou elles seraient habituellement attirés par les enfants. En réalité, les viols incestueux sont des viols d'aubaine. Les enfants sont violés dans l'intimité du foyer familial, car ils sont là, disponibles, disons, ou à disposition.
Il me semble que ce que montre ce travail, c'est-à-dire les familles où il y a de l'inceste, sont pas si différentes des familles où il n'y a pas de l'inceste. Le truc de l'inceste, c'est que c'est un peu un paroxysme de situation de domination, d'écrabouillement. Mais de l'écrabouillement, un petit peu ou un peu plus, il y en a dans toutes les familles. Ce que montre cette grande enquête, c'est que c'est cette sphère de socialisation primaire, la famille, c'est ce qu'on connaît en premier. Il me semble que c'est de là que naissent après les autres rapports de domination. Et peut-être que si ça n'a pas été dit et si ça n'a pas été décrit avant, c'est aussi parce que on colporte avec nous des espèces de fantaisies romantiques sur ce qu'est la famille, cellule première de la société, où il ferait bon vivre et où il ferait bon naître. On est bien dans sa famille, c'est ça qu'on colporte. Et puis fais attention, mon enfant, le monde est dur et tout ça. Mais dans les familles où il y a de l'inceste, qui sont, je le redis, pas spécifiques, elles sont juste pires. Elles sont juste un paroxysme de situation d'écrabouillement parce qu'il est érotisé et ça fracasse. Mais c'est bien là qu'on apprend au berceau les premières les dominations, qu'on les imprègne, qu'on les incorpore. Et après, on les exporte après, on les emmène avec soi dans sa vie d'écolier, de collégien et après dans sa vie professionnelle.
On pourrait dire que la société délègue aux parents la mission d'élever les enfants. Donc il y a une fonction sociale des parents avec un certain nombre de fonctions qu'on peut différencier, leur transmettre un nom, les nourrir, assurer effectivement une sécurité, les punir si besoin. Les parents ont cette fonction sociale, même s'il y a eu quelques tentatives pour la société de reprendre cette fonction. Les kibbutz, par exemple, où c'était le groupe qui reprenait à son compte l'essentiel de ses fonctions dans une perspective utopique. Mais bon, généralement, c'est les parents, ils ont cette mission-là. La mission qui leur est demandée, c'est d'en faire des membres de la société capables de produire, de se reproduire et d'être soumis à l'ordre social. L'ordre social est la plupart du temps hiérarchique. Donc la famille est le lieu de reproduction de la hiérarchie sociale qu'elle incorpore dans le corps et l'esprit de l'enfant par les violences physiques et psychologiques.
Tous les enfants d'une famille où il y a de l'inceste savent bien que cette violence sexuelle est tout à fait impunie, qu'on peut la commettre, cette violence sexuelle, de façon répétée année après année. On peut être un tyran domestique et c'est impuni. D'ailleurs, les énormes colères, on peut rendre la vie impossible à ses proches et ça reste impuni. Et c'est ça que les enfants intériorisent. Il y a une pédagogie très forte de ça. De la famille, c'est là où tu dois être bien, c'est là où tu te sens bien. Mais en réalité, dans énormément de familles, c'est de là dont on a envie de partir au plus vite parce qu'on se dit qu'on va crever si on y reste.
Tu meurs ou tu tues.
Tu meurs ou tu tues.
Les Nagars, 2023.
Je fais les 100 pas dans mon cloître. Je ne peux plus plier les genoux. Tous les matins, la même chanson triste passe à la radio. Plus personne ne me parle à la prison. Avant de fermer la porte de ma cellule, Novatchok a juste feulé. J'espère que tu as honte. Tu connais ton père. Il t'engueulera pas.
parce qu'il n'a toujours pas compris que c'était le seul moyen de faire entrer des trucs dans ton petit crâne. Mais il n'en pense pas moins. Même ton frère se demande comment il peut avoir une sœur aussi débile. J'ai juste le droit d'aller au basket pour mon gros bide. Après le match, aujourd'hui, il y a un goûter dans le gymnase de la mairie. Les Spartiates ont préparé des gâteaux délicieux, remplis de bonbons et de couleurs. Tout le monde parle très fort, sans doute parce qu'on a gagné. Soudain, Novatchok apparaît dans l'embrasure. Je suis sûre qu'elle m'a vu rire. Elle braque ses lunettes noires sur moi, clé de bagnole dans la main. Je sais, à sa manière âpre de tapoter du pied le revêtement, que je vais me faire démolir dans la 309. Je voudrais hurler. Ce serait le signal. Les Spartiates se regrouperaient en factions et on se précipiterait en commando vers l'entrée. On serait unis, ensemble, et ils m'aideraient. Mais personne ne voit l'alerte incendie au fond de mes yeux. Les adultes ne s'inquiètent jamais d'un enfant qui vit avec son papa et sa maman. L'entraîneur ne pose pas de questions, ça ne le regarde pas. Le facteur ne pose pas de questions, ça ne le regarde pas. Le boulanger ne pose pas de questions, ça ne le regarde pas. Le proviseur ne pose pas de questions, ça ne le regarde pas. Le maire ne pose pas de questions, ça ne le regarde pas. Et puis qu'est-ce que je répondrai de toute façon? Je ne peux pas hurler un mot qui n'existe pas.
Avec Augustin, on a une élaboration de l'enfant mauvais par nature.
Daniel Delanoë.
On l'a déjà dans la Bible de manière implicite, parce que si le parent, le père ne fouette pas son enfant, celui-ci sera son malheur plus tard. Donc l'enfant est foncièrement mauvais, il faut le redresser. Mais avec Augustin, il est porteur du péché. Le péché originel, c'est Augustin, donc au IVe siècle, qui élabore cette idée de transmission du péché à chaque nouveau-né. Et la seule manière de le sortir du péché, en dehors du baptême, mais ça ne suffit pas, c'est de le frapper, de le fouetter au maximum. Et sinon, il ira en enfer. On a oublié ce que c'était que l'enfer, mais pour les chrétiens et les musulmans, c'est une menace absolument terrifiante.
Et dans une société certes occidentale, française, mais plus sécularisée, est-ce qu'il vous semble que ces représentations continuent d'être mobilisés ou à l'origine de violences intrafamiliales contemporaines?
Dans les années 1860-1870, il y a eu Tardieu, qui était professeur de médecine légale, qui fait la première description des sévices envers les enfants, sévices physiques et sexuels. Et donc, la médecine découvre, décrit les violences extrêmes faites sur les enfants, sur des cadavres ou des enfants encore vivants. Donc là, c'est un événement historique majeur. Et en 1887, dans le prolongement des travaux de Tardieu, vient la première loi de protection de l'enfance contre les sévices, et qui prévoit une déchéance de l'autorité paternelle. Cette loi a été en fait très peu appliquée et quasiment oubliée. Il a fallu attendre la description, un siècle plus tard, en 1960, du syndrome des enfants battus par des pédiatres californiens, Kempf, pour qu'on redécouvre la notion de l'enfant battu et que dans les années 70, on commence en France à légiférer là-dessus. Donc après, si vous voulez, il y a eu presque une éclipse où ce que disait l'enfant était digne de foi. Et très vite, ça s'est refermé avec des psychiatres qui disaient « Non, l'enfant est mythomane, l'enfant est menteur, et quand il dit qu'il a été abusé, violé, violenté, c'est un menteur. » Donc la parole de l'enfant est disqualifiée sous des arguments psychologiques ou du sens commun. Et on le retrouve aussi dans la psychanalyse. L'enfant est un pervers polymorphe. Dans le complexe d'Oedipe, c'est l'enfant qui a des désirs incestueux, alors que l'enfant est victime des agressions sexuelles, de l'inceste que Freud avait constaté dans les études sur l'hystérie. Dans les années 1890, Freud décrit des hystériques qui ont été victimes d'inceste. Il appelle ça des scènes de séduction, par euphémisme. Et puis tout d'un coup, en 1897, il dit en fait non, je ne pouvais pas croire qu'il y ait autant de pères aussi pervers. Donc ce ne sont que des fantasmes. Et donc là, tout d'un coup, la vérité de la parole attribuée à l'enfant lui est retirée. L'enfant est un fabulateur, fantasme, etc. Et le parent est complètement déresponsabilisé. Ces représentations-là imprègnent encore largement la représentation de l'enfance.
Alors, je voulais simplement vous lire un petit truc, juste pour avoir votre avis. Un enfant n'a aucune propriété. Il doit rendre des comptes pour chaque chose qu'il a reçue pour ses besoins. Il n'a pas le droit de déchirer, de salir. Il ne doit rien donner en cadeau ou jeter par satiété.
Janusz Korczak, 1878-1942.
Se montrer satisfait.
Pionnier de la défense des droits des enfants.
Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ?
Oui. Oui. En gros, on dit que l'enfant, bah, il n'a pas le droit de se plaindre.
Tania.
Ou de dire que ça ne va pas et il doit être à carreau. Il ne doit pas salir ses vêtements, il ne doit pas se tacher. Il doit être comme enfermé dans une boîte, comme domestiqué. Enfin, voilà, un enfant, c'est ce que j'ai compris, voilà.
Moi, la première chose que j'ai compris, c'est que c'est faux.
Mia.
Et
pourquoi c'est faux ?
Bah, par exemple, il y a des parents, ils se disent, bon, bah, je t'ai sali, bah, mais à la machine, c'est pas grave, voilà. Et moi, bah, moi, je me plains pas mal quand même. Enfin, pas tout le temps, mais.
Et Naya.
Il y a certains parents, je vais revenir sur ce que Mia il a dit, c'est faux, parce qu'il y a certains parents, ta salité, truc, je vais te frapper avec une ceinture. Mes amis, c'est ça en fait.
Il y a beaucoup de mes amis aussi qui disent,
par exemple. Moi, je suis la seule de mes amis qui me fait pas frapper. Par exemple, je trouve ça bizarre.
Comment tu sais ça ?
Parce que tous les jours, ma copine, elle revient avec l'oreille rouge, parce que sa mère, elle lui tire l'oreille. Elle revient des fois avec des marques à l'école et elles me le disent pourquoi elles ont pleuré, parce que des fois elles viennent en pleurant et c'est ça.
Et j'avais une amie qui se faisait frapper par son père, j'ai toujours cette amie d'ailleurs, et du coup nous avec mon autre amie à les récréations quand on se retrouvait tous les trois, et ben par exemple on lui apprenait des techniques pour esquiver ou tout ça, par exemple
des techniques que oui, tu avais apprises où
je faisais de la boxe. Et je pense que c'est bien que nos amis nous le disent, parce que, genre par exemple, cette même amie, elle se faisait harceler par des garçons à l'école. Du coup, nous, on en a parlé à la directrice. Et du coup, elle a dit, ah bah, c'est pas une colombe blanche non plus, hein. Donc franchement, c'est dit. Mais elle se fait harceler, en fait.
Alors, Tal Peter Bromer, c'était un de nos amis proches. Il est mort à l'âge de 29 ans, il s'est suicidé le 25 octobre 2021. Il était chercheur en philosophie, il travaillait sur la question des rapports de domination entre les adultes et les enfants. Il faisait ses recherches en lien avec son histoire personnelle et le fait qu'il a été victime d'inceste pendant son enfance. Expérience qui nourrissait aussi son militantisme, puisqu'il était militant dans une association, l'association Clafoutis, qui lutte contre les violences faites aux enfants à partir d'ateliers de sensibilisation dans les écoles. Quand il est mort, il a laissé une partie de ses travaux inachevés, notamment sa thèse, donc qui était son travail théorique le plus massif, le plus abouti. Et c'est parce que ce travail a été laissé inachevé que nous, on a récupérer les documents et on travaille pour rendre ces documents publiables et donc publics.
Alors bah, peut-être qu'on peut en parler plus précisément de cette pensée de Tal.
Une des premières choses que Tal a voulu penser, c'est l'idée selon laquelle les enfants sont vulnérables et donc il faut les protéger. Il serait naturellement vulnérable parce que voilà, il serait petit, incapable d'être autonome, il serait pas tout à fait fini en fait. C'est des adultes qui sont pas finis, donc ils sont vulnérables. Et du coup, parce qu'ils sont vulnérables, il y a des adultes gentils qui vont les protéger, et ces adultes gentils, ça va être la famille. Et du coup, le point de départ de Tal, bah, c'est vraiment les violences intrafamiliales. Et à poser la question, bah, en fait, si c'est le lieu de la protection de l'enfance, comment se fait-il que la famille soit le lieu où se déroule l'immense majorité des violences sur les enfants. Il y a deux réponses à ça. Soit la nature fait vraiment mal les choses, soit là, on ne parle pas de nature, mais on parle bah, de rapports de pouvoir tels qu'on en trouve partout ailleurs dans la société. Et donc, l'option de Tal, c'est d'essayer de nous faire, en tout cas, de déplacer un petit peu notre pensée pour demander et qu'est-ce qui se passerait, en fait, si on prenait 5 minutes pour envisager que ces relations-là, ce sont des relations de pouvoir. En quoi changer notre regard de cette manière pourrait nous permettre d'être plus attentive en fait aux violences qui s'exercent sur les enfants et qui nous semblent normales parce qu'on trouve que la famille c'est normal.
Il y a une phrase qui m'avait marquée de Tal, c'est la fiction de l'adulte autonome a donc besoin de la fiction de l'enfant à protéger et à éduquer.
Oui, parce que Pierre. Du coup, dans le libéralisme en général, on a d'un côté l'idée d'un individu purement rationnel et autonome qui donc serait l'adulte, et de l'autre, en effet, il y a ce pendant d'un être vulnérable qui du coup a besoin de l'être rationnel, quoi. Il y a l'idée que l'être rationnel est celui qui fait des choix. En fait, c'est ça être rationnel, je crois, pour le libéralisme, celui qui fait des choix. Et donc, cet être irrationnel, immature, inabouti, traversé par ses passions, par ses débordements, a besoin de quelqu'un qui le cadre rationnellement et qui lui donne une place, et du coup une place subordonnée dans la société.
Ce que j'aime dans ma discipline d'anthropologie, c'est de penser à partir des expériences. Donc, si on revient aux fondamentaux, si on revient à la description des situations,
Dorothée Ducey.
Peut-être on ne doit pas parler, ça nous perd de parler de domination, mais on doit parler de, on doit avoir des petites anecdotes de vie quotidienne. Je pense à ça en termes de continuum de pratique quotidienne qui va de la pédagogie à la domination. Et donc, des fois, on est sur des choses poreuses. Et par exemple, je sais pas moi, des expériences de la vie quotidienne toutes simples avec fini ton assiette d'épinards. C'est le quotidien, enfin on vit ça tous les jours quand on est petit enfant, enfin pas toujours avec les épinards, mais enfin c'est du quotidien quand même, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et que quelqu'un de plus vieux, soit qui a mis l'assiette devant nous, soit qui est un commensal, qui est un grand frère, une grande sœur, nous dit bah si allez fini ton assiette d'épinards. Et c'est aussi que les épinards, c'est bon pour ta santé et que tu vas avoir du fer et des os bien solides et que c'est chouette, ça. Tout le monde fait ça avec ses enfants, c'est la socialisation primaire. Et donc, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a des choses qui sont acceptables. Finir ses épinards peut être acceptable, n'est plus acceptable si on vous écrase la tête dedans pour que vous finissiez votre assiette. Il y a un rapport d'asymétrie structurelle entre les adultes et même les grands-enfants et les petits-enfants. Mais ça, c'est vrai. Il y a une asymétrie. Je ne sais pas si pour autant on doit la thématiser ou la problématiser comme un rapport de domination. C'est peut-être juste ça, en fait, à dire. Bien sûr, toutes les pédagogies ne se valent pas. Et là, quand même si la majorité statistique des incesteurs sont des adultes et les incestés sont tous systématiquement, à 100% des cas, des enfants au moment où commence l'inceste. Pour autant, je ne monte pas en généralité en disant donc il y a des rapports de domination des adultes sur les enfants. Parce que enfants, comme adultes d'ailleurs, sont des catégories peut-être pas assez fines. Voilà. Comme l'âge, les rapports d'âge. L'âge charrie avec lui des spécificités qu'il faut prendre en compte. Et donc, en ce sens, pour moi, ce qui organise notre monde social, c'est pas un rapport de domination adulte-enfant, ce serait plutôt quelque chose autour de la vulnérabilité. Et le moment où on est très vulnérable, bien sûr, c'est la très petite enfance, et puis après la petite enfance, et puis après, voilà, après on l'est moins. Mais ce serait ça dans l'enfance qui rend les gens incestés ou dominés, c'est qu'ils sont vulnérables.
Maintenant, des techniques d'autodéfense physique avec le corps. De si quelqu'un vous attrape le bras, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si quelqu'un vous attrape par derrière, etc. Ça marche? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout ensemble en bas.
Oui, c'est ça.
Allez, on se tient la main. Alors, imaginez qu'il y a une personne, Jade, que tu connais pas, qui veut t'attraper, comme ça. À votre avis, là, dans cette situation, si je tiens Jade comme ça, qu'est-ce que Jade, elle peut faire?
Moi, je sais.
Attends, tiens-moi le bras.
Mais si, là, t'es comme ça sur moi, là...
Troisième temps de l'atelier de Cap d'Agia. En extérieur, pour partager des techniques d'autodéfense adaptées aux enfants.
Alors, même si tu t'attrapes le bras, il y a une solution quand même.
Et avec le coup, elle met
une solution. Par exemple, là, je suis de toi, et là, je t'attrape le bras, mais toi, tu vas essayer de enlever le bras. Par exemple, vas-y.
Parmi celles-ci, le cri de sécurité. Un cri rauque qui se distingue de la clameur qui émane d'ordinaire des aires de jeu pour enfants, pour alerter en cas de danger dans l'espace public.
Ah, bah oui.
cri, c'était très bien.
En fait, la construction de l'enfance comme innocence et du coup la privation qui s'ensuit de des informations, du savoir concernant la sexualité, en vérité, pour Tal, ça ne faisait que renforcer des logiques qui permet à l'inceste de continuer à se développer, à exister. En fait, de dire, bah, puisque l'enfant est innocent, on ne va pas lui parler de sexualité, puisque ça serait en vérité l'entacher. Sauf qu'en fait, cette pseudo-volonté de ne pas entacher l'enfant, en fait, de ne pas vouloir entacher le mythe de l'enfance, fait que concrètement, on prive les enfants d'un savoir qui permettrait en effet de, si ce n'est se défendre, au moins communiquer, qui permettrait de comprendre, qui permettrait de mettre des mots, de cercler par les mots des expériences qui sont des expériences traumatiques, des expériences violentes, et qui permettraient de se faire des représentations, et aussi du coup de communiquer des appels à l'aide ou de communiquer sur ce qui se passe au sein de la famille, quoi.
La vulnérabilité, elle est construite socialement aussi. Les enfants, très tôt, on pourrait leur expliquer, d'ailleurs le racisme aussi, hein, ça vaut pour d'autres rapports de domination, on pourrait leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'humiliation, la violence dans toutes ses modalités, et on le fait pas. Et là, on voit bien la résistance de l'éducation nationale, la résistance de toutes les institutions à mieux informer les enfants sur tous les sujets qui les concernent. Donc pas avoir les mots, même pour les petites filles, pour nommer leurs organes génitaux, les parties de leur corps, et les petites filles et les petits garçons, pour désigner les gestes de la sexualité. On les connaît très tard, on ne connaît pas les mots. Avec violence, sans violence, donc les enfants n'ont pas de mots pour décrire les expériences de viol ou de violence qui vivent à la maison. Et ça, c'est une volonté sociale très forte et très assumée de la part de la société dans son ensemble de maintenir les choses en l'état. De ce point de vue, je suis d'accord de penser des rapports de domination et de penser les outils que le monde adulte façonne pour maintenir un certain nombre de populations, dont les enfants, dans l'ignorance et dans l'incapacité de se défendre. Voilà, pas seulement les enfants, mais aussi les enfants et beaucoup les enfants.
Alors, l'infantisme, on a des ravages qui sont plus ou moins visibles. Déjà, il y a des degrés d'infantisme. Hein. Je pense qu'en fonction de la quantité, on a des choses différentes.
Lélia Benoît.
Si c'est vraiment du mépris, des humiliations quotidiennes, des châtiments corporels, on a des enfants qui sont effectivement très abîmés dans leur développement émotionnel, corporel, dans leur rapport aux autres. Et donc, c'est des adultes qui vont avoir plus de difficultés dans leur rapport avec eux-mêmes, avec les autres, et qui sont à risque de répéter ce genre de violence dans leur couple, dans leur travail, avec leurs enfants. Enfin, c'est vraiment une chaîne de la violence. Et puis, pour les formes d'infantisme qui sont plus légères, hein, et puis tout ça, c'est une gradation, ça va être plutôt des dommages émotionnels, en fait. Le fait d'avoir été humilié, de pas avoir été écouté, de pas avoir été pris au sérieux, ça abîme la confiance en soi. Ça ne nous fait pas grandir dans un monde de coopération. On apprend la soumission et on crée des adultes qui vont être plus réprimés sur le plan émotionnel, qui vont avoir plus de tendance à aller vers des systèmes autoritaires. Donc en fait, on crée une société où il faut dominer ou être dominé au lieu de coopérer ensemble.
Une des pistes qu'il envisage à la fin de son article dans la culture de l'inceste et aussi dans sa thèse,
Annelies,
c'est la possibilité de se remémorer collectivement les expériences de domination qu'on a subies lorsqu'on était enfant et de le faire en tant qu'adulte. Se remémorer les expériences d'enfant comme des expériences de domination et pas comme des expériences de formation ou d'éducation d'enfants inachevés et voués à devenir des adultes achevés, pour éviter de reproduire en fait les rapports de domination qui ont été perpétués sur nous lorsqu'on était enfant.
Ça suppose un changement de paradigme dans la manière dont on voit nos propres enfances, parce que on considère souvent notre enfance d'un point de vue justement idyllique à partir de cette image de l'enfance. Oui, j'ai eu des difficultés, etc., mais je m'en suis sorti. Ou alors en me disant « Oh, mais non, mais moi, de mon enfance, mes parents, mes grands-parents, tout s'est bien passé, ils étaient parfaits, voilà ce qui fait l'adulte que je suis, etc. » En fait, c'est un vrai exercice intellectuel et affectif d'accepter de relire son enfance, ses souvenirs. Tal utilisait souvent la métaphore des boîtes d'archives ou des vieux cartons hein, qu'il faut ouvrir, parfois un peu avec force, et faire ressortir des choses sous le prisme de la domination. C'est pas facile.
Si jamais on a aussi des difficultés, on peut appeler le 119. Vous en avez déjà entendu parler, Asia ? T'as déjà entendu parler du 119 ? Non ? T'as jamais entendu parler du 119 à l'école ?
Si, mais... C'est les pompiers ?
Non.
C'est la police ?
Dans une maison c'est sous terre, il y a un enfant. Avec des monstres, des serpents, des revenants et tant de fantômes, là, on entend. C'est seulement ton imaginaire, disent ses parents, car tout va bien, tu le vois bien, qu'il y a que des hommes et des enfants, mais elle est sans... Quand cet esprit lui fusille la tête, elle se déconnecte. Il a son corps avec les spectres, lui serre les dents, l'enfant ignore. Si elle meurt ou si elle dort, à cet instant, elle s'éteint le corps, reste le cœur, mais ses vertus à fixer le décor, et puis se taire. Seule douleur est passagère, donc elle ignore. Mais l'imaginaire...
Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de tout ça ?
119.
Pour moi, tout ça, c'est nous.
Moi aussi. Moi, ça me choque vraiment.
Merci à Claude Ponty, Lélia Benoît, Adèle et Charlie Tincelin, Asia, Mélina, Mohamed, Jade, Miguel et tous les enfants rencontrés à Toulouse lors de l'atelier de Cap d'Agir animé par Sonia, Harmonie et Laurine.
Comme, par exemple,
Dorothée Ducy, Daniel Delanoë, Lo, Pierre et Anaïs, amis de Tal Peter Brobert, la classe de CE1 de l'école Tourtille, ainsi que Tania et Naya, et Mia, bien sûr. Un grand merci à Eva et Alice, les mères de Mia, ainsi qu'à Raoula et Ibrahim, parents de Naya et Naël, pour leur confiance. Lecture, Mia et Nathalie Canoui.
C'est un cauchemar que tu décris. On va plus te croire, ça sera fini. Plus de Papa Noël, petite souris. On dit qu'ils disent la vérité, on leur raconte que des conneries. Plus hermétiques sont les maisons, plus sont des prisons pour les petits.
Qu'est-ce que vous aimez le plus ?
La chanson qu'on écoute, c'est L'Enfantôme de mon ami Oxney.
J'aime bien la jet à bord de rouge. Et voilà.
Prise de son, Fabien Gosset, Lucien Lefebvre et Pierrick Charles. Mixage, Bruno Mourlan. Stagiaires, Agathe Veil et Chloé Garrigue. Documentation Radio France, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Johanna Bedeau.
Mais dites pourquoi les enfants tôt ment-ils autant les infamies ? Pourquoi passe-t-il de pièce en pièce ? Pourquoi passe-t-il de père en fille ? Pourquoi les cachetons se nourrit dans les plis comme bactéries ? Est-ce des non-dits ou des dénis ? Ces cauchemars de leur famille, on aime leur apprendre.
Les enfants peuvent-ils parler ? Mais comme de leur bouche sort le vrai, infantisme.
Une série documentaire de Clément Salzar et Anne Fleury.
Une dose de songe pour les enfants, pour protéger mensonge des grands qui gardent en eux l'enfant rongé. Les maltraitants se pas traités, parler de fantômes est insensé. Quand cicatrices sont bien planquées, certains diront y'a pas de laisser. Alors croyez les petites personnes, autant que vous c'est des quelqu'un, autant que les monstres peuvent être humains.
Vous pouvez le réécouter sur franceculture.fr et retrouver le podcast sur l'appli Radio France.
Seulement les mots que les mots, pas sur l'enfer,
c'est vrai,
de l'enfantôme.
C'est le four ou c'est la machine ?
C'est ça.